l'écoute de RFI, Radio France Internationale, et je vous en remercie. Il est 23h à Paris, 21h en temps universel.
Mathis Limano.
Les titres de votre journal, réactions internationales en cascade après les frappes israéliennes sur l'Iran, réactions hétérogènes, les Européens appellent à la désescalade, condamnation unanime des pays du Golfe, tandis que les États-Unis invoquent le droit de se défendre d'Israël. Sur le front de la bande de Gaza, ce nouveau bilan, près de 43 000 personnes sont mortes dans l'enclave depuis le début de la guerre. Dans votre journal, cette guerre aussi entre Kiev et Moscou, la Russie qui subit une inflation galopante, la faute aux sanctions occidentales, et puis en Chine, l'éditeur d'un roman de science-fiction adapté en série sur Netflix au cœur d'une enquête pour corruption. Après les frappes israéliennes la nuit dernière sur l'Iran, qui ont fait 4 morts en visant des sites militaires, frappant en réponse aux quelques 200 missiles lancés le 1er octobre par l'Iran sur l'État hébreu, la communauté internationale redoute une confrontation directe entre les deux pays. Tour du monde des réactions avec Vincent Danilo.
S'abstenir de toute escalade, voilà ce que demande la France. Même chose pour l'Allemagne et le Royaume-Uni. De son côté, Washington invoque la légitime défense d'Israël et exhorte l'Iran à ne pas répliquer. Mais après les frappes nocturnes, Téhéran juge avoir le devoir de se défendre. Ces frappes israéliennes ont d'ailleurs suscité l'inquiétude des alliés des États-Unis dans la région. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie sont unanimes, condamnation ferme des attaques israéliennes. Le Qatar, lui, dénonce une violation flagrante de la souveraineté de l'Iran. Et dans ce contexte explosif, l'Irak pointe du doigt le silence de la communauté internationale tout en s'indignant du, je cite, « comportement brutal d'Israël ». La Turquie parle même de « terreur » créée par l'État hébreu dans la région. Enfin, le Pakistan, le grand allié régional des États-Unis, qui partage une longue frontière avec l'Iran, estime qu'Israël porte l'entière responsabilité de l'escalade et de l'extension du conflit. Le voisin afghan est sorti de son silence habituel pour dénoncer un risque d'aggravation de la situation régionale.
Le chef de l'ONU, profondément inquiet de l'escalade au Moyen-Orient après les frappes israéliennes en Iran. Pour sa part, le Hezbollah qualifie l'attaque israélienne d'escalade dangereuse. L'organisation affirme aussi que les États-Unis en portent l'entière responsabilité. Les États-Unis, un vrai ami, salue le président israélien qui souligne la coopération entre les deux pays. Enfin, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, confirme que les installations nucléaires iraniennes n'ont pas été touchées. L'Iran, soutien financier et militaire de plusieurs groupes dans la région, entre autres le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien. Hamas, dont le ministère de la Santé dresse un nouveau bilan ce samedi des victimes dans la bande de Gaza. 42 924 personnes y sont mortes depuis le déclenchement de la guerre le 7 octobre 2023. Ces dernières 48 heures, ce sont 77 personnes qui sont décédées dans l'enclave. Toujours pas de résultat officiel en Géorgie, mais c'est le parti pro-russe au pouvoir qui est donné en tête des élections législatives. Après le dépouillement de 70% des bureaux de vote, dépouillement qui semble d'ailleurs ne plus avancer à l'heure où je vous parle, eh bien le rêve géorgien remporte 53% des voix contre 38,28% pour la coalition pro-européenne de la présidente. Le premier ministre hongrois Viktor Orban, lui aussi proche de Moscou, a salué la victoire écrasante du parti au pouvoir. Pour sa part, l'opposition pro-européenne refuse de reconnaître, je cite, « des élections volées ». Week-end de vote aussi au Chili. 15 millions de personnes sont appelées aux urnes pour les élections municipales et régionales. C'est la première fois que le pays vote depuis la fin du long processus constitutionnel qui avait été lancé pour sortir de la crise sociale en 2019. L'élection de ce week-end pourrait donc apporter plus de clarté quant aux orientations politiques de la société chilienne et en même temps dresser le panorama des forces en présence. À Santiago, correspondance de Naila Doroné.
Pour Pamela Figueroa, politologue et professeure à l'Université de Santiago, ce scrutin devrait lancer un nouveau cycle politique.
Après l'échec des deux processus constitutionnels et avec beaucoup de nouveaux partis, je pense qu'on va avoir un aperçu de ce que va être le nouveau panorama politique pour les prochaines années au Chili.
Avec en plus le vote qui est obligatoire, tous les Chiliens vont devoir se rendre aux urnes sous peine de sanctions. Cela n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans pour une élection de ce type et cela rend l'issue du scrutin plutôt incertaine, car une partie de la population qui traditionnellement ne votait pas va devoir le faire ce week-end.
L'une des conséquences, c'est qu'on aura probablement une quantité importante de votes nuls et de votes blancs. Aussi, les électeurs vont peut-être se tourner cette fois-ci vers des candidatures de nouveaux partis ou des indépendants en opposition aux partis plus traditionnels.
independientes en comparación a lo que han sido los partidos más tradicionales.
Selon Pamela, cela pourrait alors favoriser de jeunes formations, notamment à l'extrême droite. Mais de manière générale, cette élection ne soulève pas les foules. Seuls 1% des Chiliens font confiance aux partis politiques. Des partis pour certains empêtrés dans des scandales de corruption, mais dont la majorité n'a surtout pas su répondre aux demandes de la population, principalement sur le plan social. Neila Drouane, Santiago, RFI.
Et au Chili, l'extrême droite qui pourrait profiter des récents scandales dans la classe politique pour faire une poussée lors de ces élections locales. Résultat officiel attendu ce dimanche 21h, heure locale. Situation économique morose en Russie. Le pays fait face à une inflation galopante, plus de 8% en un an. En cause, la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales. Conséquence, la Banque centrale russe a annoncé relever son taux directeur, qui atteint donc son niveau le plus élevé depuis 20 ans. Arthur Ponchelet.
Nous avons besoin d'une politique monétaire beaucoup plus stricte au cours de la prochaine année, reconnaît Elvira Nabiullina, la directrice de la Banque centrale russe.
Aujourd'hui, nous avons décidé d'augmenter le taux directeur à 21% par an. Depuis septembre, la hausse des prix s'est accélérée, les anticipations d'inflation ont également augmenté et les prêts ont continué à croître rapidement.
Une inflation due notamment à des dépenses budgétaires qui explosent, plus 50% en 3 ans. Conséquence de la guerre en Ukraine et de l'augmentation du budget de la défense. Un budget qui a d'ailleurs été relevé ce jeudi par les députés. Il sera 30% plus élevé l'an prochain. La guerre a aussi des conséquences pour les entreprises qui composent avec des pénuries de main-d'œuvre. Des centaines de milliers d'hommes ayant été dépêchés sur le front ou à l'étranger.
Arthur Ponchelet, sur le front, Kiev assure que les soldats nord-coréens déployés en Russie vont commencer à combattre dès ce dimanche. La guerre entre la Russie et l'Ukraine qui s'apprête à connaître son troisième hiver. Ce vendredi, le G7 a annoncé un nouveau prêt de 50 milliards de dollars pour Kiev, une somme remboursée par les intérêts des avoirs russes gelés. Retour presque à la normale en Guadeloupe. Le courant est rétabli pour 2/3 des clients. Annonce de la compagnie d'électricité EDF 24 heures après une coupure généralisée sur l'île française des Antilles. EDF qui a porté plainte contre X pour mise en danger d'autrui après l'arrêt des moteurs de la principale centrale de Guadeloupe. A noter également de nombreux pillages la nuit dernière alors que l'île était plongée dans le noir. Au total, 11 enseignes ont été vandalisées à Pointe-à-Pitre, notamment à l'aide d'un tractopelle. Les forces de l'ordre ont essuyé des tirs à balles réelles. Quand la science-fiction se heurte à l'idéologie du Parti communiste chinois, Yao Heijun est un nom bien connu des amateurs chinois de science-fiction. Cet éditeur a notamment découvert Le problème à trois corps, roman primé et récemment adapté en série à succès sur Netflix. Yao Heijun, figure représentative de la communauté chinoise de la science-fiction et éditeur de renom, eh bien il est au centre d'une enquête pour corruption. RFI Pékin, Cléa Broderst.
Yao Heijun, directeur adjoint du magazine Science Fiction World, est accusé de graves violations de la discipline du Parti communiste et de la loi, terme souvent utilisé pour parler de corruption. Son nom est bien connu des amateurs chinois de science-fiction. C'est lui qui a notamment découvert Liu Shixin, célèbre pour Le problème à trois corps, publié pour la première fois en série dans le magazine en 2006. Ce roman est devenu une œuvre phare de la science-fiction chinoise. En mars, des médias affiliés à l'État ont publié un article cinglant sur son adaptation sur le petit écran, déclarant que cela encourageait l'hégémonie culturelle américaine sous couvert de diversité. L'affaire Yao s'inscrit dans une campagne plus large de lutte contre la corruption qui cible également d'autres éditeurs de médias chinois. En octobre dernier, lors du Worldcon de Chengdu, des accusations de censure politique avaient déjà ébranlé le milieu, ajoutant à la pression exercée sur les figures de la sphère culturelle et littéraire. Les tensions autour de la censure et des attentes politiques pèsent sur la culture chinoise, en particulier dans des domaines où les thèmes explorés, comme ceux de la science-fiction, peuvent se heurter aux lignes idéologiques chinoises. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Enfin du football, pour refermer votre journal, on va en Espagne avec un classico à sens unique. En Liga de football, c'est pourtant le Real Madrid qui a ouvert le score, but de Kylian Mbappé à la 30e minute, mais refusé pour hors-jeu. Ensuite, le FC Barcelone a déroulé, doublé de Robert Lewandowski en l'espace de 2 minutes, but de l'étoile montante, Lamine Yamal. Et puis en toute fin de match, Rafinha a définitivement douché les espoirs madrilènes en marquant à son tour. Score final finale. Barcelone 4, Real 0, une victoire des Blaugrana qui leur permet de rester en tête de la Liga. En France, dans le derby du Nord, entre Lens et Lille, aucun but jusqu'à la 98e minute, mais le Lillois Jonathan David est venu libérer les siens sur pénalty, score final 2-0 pour Lille après un deuxième but de Mohamed Bayo. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. L'actualité française dans un peu moins d'une heure, dans 24 heures en France. Bonne suite des programmes sur RFI.